En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je vais vous parler de la technique et en tant que matrice de la guerre aérienne. Et je vais commencer par vous citer, monsieur le professeur, si vous le permettez, puisque dans votre livre sur les origines du capitalisme, qui remonte il y a longtemps, vous avez, au XXe siècle, 1971, vous avez montré le processus qui, en Occident, a conduit à l'effacement de la figure du prêtre, du militaire et du politique, au profit de l'apparition d'autres figures, qui est celui de l'entrepreneur, qui est voué, dont l'activité est vouée à la recherche du profit, et puis du technologue, qui est voué à la recherche scientifique et technique. Et au XXe siècle, le technologue a trouvé dans le champ de la guerre aérienne, sans doute, le domaine le plus propice au développement de son activité scientifique et technique. Cela tient tout d'abord aux caractéristiques du milieu aérien, qui, comme le milieu maritime, est un milieu hostile. Et puis, comme l'homme sait nager mais qu'il ne sait pas encore voler, l'importance de la technique est encore plus importante pour la survie de l'homme dans le milieu aérien que dans le milieu maritime. Et donc la technique s'exprime beaucoup plus librement dans l'air, sans être bridée par les différents éléments naturels que sont le relief, la végétation ou d'autres activités humaines. Ce qui a fait dire au stratégiste israélien Martin von Creveld que plus l'environnement est simple, plus la supériorité technologique confère le plus grand avantage. Et c'est cette simplicité du milieu aérien donc, qui confère à la technologie un grand avantage, puisqu'elle peut s'exprimer très librement dans ce milieu lisse. Et donc la technique entretient un lien spécifique avec le milieu aérien et la stratégie aérienne, ce qui fait dire à Philippe Mélinger, un stratégiste américain, que la technologie et la puissance aérienne sont étroitement liées et coordonnées. Ce lien entre l'armement, la technique et la stratégie a été déjà illustré à de nombreuses reprises. On peut parler du livre de Fuller, du livre de Colin, et puis avant la Première Guerre mondiale, du livre de Fuller en 1946, l'influence de l'armement sur l'histoire, le livre de Ayrey en 1950 sur l'art de la guerre et la technique, qui ont sans doute déjà été évoqués. Et puis Poirier, en 1971, dans son livre des stratégies nucléaires, a évoqué, a différencié la stratégie génétique, qui est la conception des armements, la stratégie des moyens, qui est la production des armements, et puis la stratégie militaire. Et il a décrit l'étroite coordination qu'il y a entre ces stratégies génétiques, ces stratégies des moyens et ces stratégies militaires. Et on peut citer en particulier cette phrase qui est tirée des stratégies nucléaires. L'histoire de la stratégie militaire est aussi faite de problèmes transférés de l'une de ses composantes à l'autre, de la stratégie opérationnelle à la stratégie des moyens et vice-versa. Chacune apporte à l'autre le soutien de ses solutions spécifiques, les ressources de l'une ne pouvant être valorisées que par l'autre. Principe de complémentarité entre les voies et les moyens. L'événement nucléaire illustre exemplairement ce processus. Cependant, il est difficile d'isoler le facteur technique d'autres facteurs, puisque, comme l'écrit le général Ayrey dans son livre sur stratégie et armement, la forme et les insignes de la casquette exercent une influence déterminante sur le cerveau qui est abrité. Et on peut citer, par exemple, l'exemple du développement du missile de croisière par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains se lancent dès 1944-45 dans le développement d'un missile de croisière pour différentes raisons, pour des raisons techniques. Tout d'abord, parce qu'ils pensent qu'il suffit d'extrapoler les caractéristiques de l'avion et de transformer sa forme aérodynamique, qu'il suffit de modifier les pilotes automatiques, pour avoir un missile de croisière donc, dont le premier exemplaire est le missile V1 allemand. Et que plutôt que de développer un missile balistique qui lui va se heurter à des problèmes techniques que les Américains estiment insolubles à un court horizon qui est celui de la rentrée dans l'atmosphère d'un mobile. Et donc il développe, plutôt que de développer un missile balistique, il s'oriente vers le missile de croisière pour des raisons techniques mais aussi pour des raisons culturelles, puisqu'ils ont foi en l'avion piloté, en le vecteur piloté, dont le missile de croisière n'est qu'une extrapolation, pour finir, sous une forme non pilotée. Et il faut attendre les années 1952, 1953 et plusieurs rapports de civils extérieurs à l'Air Force qui montrent que le missile de croisière va être plus cher, qu'il va être moins précis et moins performant que le missile balistique, pour que l'Air Force se lance dans le développement du missile balistique et donc va prendre du retard par rapport aux soviétiques qui, eux, partiront directement sur le missile balistique. Et donc ce choix du missile de croisière sur le missile balistique tient beaucoup plus à des considérations... tient autant à des considérations techniques que culturelles, et donc montre donc l'importance de ce facteur culturel, de la culture stratégique, comme d'autres facteurs, comme la sociologie, dans le développement de la science militaire. Donc il est difficile d'isoler la technique d'autres facteurs, et c'est d'ailleurs ce que avait dit Fuller en énonçant sa première loi lorsqu'il avait écrit que c'est le caractère dominant de la civilisation qui marque la guerre de son empreinte. Et donc cet exposé, dans la lignée de travaux récents qui ont été conduits par des Américains, en particulier de Paul Edwards avec son livre The Closed World qui a été publié en 1996, ou alors ceux de Jeremy Blacks, plus récent, en 2013, sur War and Technology, ou alors celui qui a été publié l'an dernier, Patrick Coffey, American Arsenal, va essayer de montrer comment les représentations, l'univers des représentations a influencé les aviateurs dans la construction technique de la guerre aérienne. Et donc comment la technique de la guerre aérienne est non seulement le fruit de la recherche scientifique, mais aussi le fruit d'une construction sociale. Et pour ça, je vais voir tout d'abord le lien entre les ingénieurs et les aviateurs, qui se développe dès le début de l'arme aérienne. Puis je vais voir comment... le poids des questions techniques dans la guerre aérienne donne naissance à la recherche opérationnelle, dont les méthodes seront ensuite reprises par les autres armées. Et ensuite, je pose la question de la place de l'homme dans cet univers technique, et notamment après le développement de systèmes automatisés grâce à l'ordinateur, après la Deuxième Guerre mondiale. Les premiers avions ont été construits non pas par des militaires, par des ingénieurs civils, par Clément Ader, par Gabriel Voisin, par Maurice Farman, par Louis Berriot, mais les militaires, dès le début de l'aviation, ont joué un rôle essentiel. Ce sont les militaires qui ont financé les recherches de Clément Ader. Ce sont encore les militaires qui normalisent la production aéronautique en imposant un certain nombre de caractéristiques aux appareils. On peut citer quelques exemples. C'est par exemple les militaires qui demandent que tous les appareils soient conçus selon les normes qui ont été, selon le modèle qui a été conçu initialement par Louis Blériot, qui est celui que quand on tire la manette des gaz pour pousser le moteur, de même qu'on tire le manche pour gagner de l'altitude. Et donc pour les militaires, il semblait plus logique d'avoir les deux mouvements synchronisés. Et ce sont les militaires qui demandent que ce sens des commandes soit adopté par tous les avions. Et ça restera le cas sur tous les avions jusqu'en 1941. À partir de 1941, c'est le système américain qui s'impose, où on pousse sur la manette des gaz pour pousser le moteur. Les militaires jouent également un rôle dans la compacité des appareils, ce qui permet de les rendre plus résistants lors des manœuvres et de gagner de la charge utile. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a un certain nombre de coopérations célèbres entre les aviateurs et les ingénieurs. On peut citer d'abord celle entre l'aviateur Roland Garros et l'ingénieur Raymond Saulnier, qui conduit à l'adoption de cette mitrailleuse qui tire à travers le champ de l'hélice, qui n'est pas sur le Morane, qui deviendra le Morane Saulnier, qui n'est pas encore synchronisé avec l'hélice en 1915. Mais cette collaboration n'aura pas de suite, puisque Roland Garros est fait prisonnier après avoir atterri derrière les lignes allemandes et après avoir obtenu 3 victoires aériennes grâce à ce nouveau dispositif. Mais donc cette collaboration entre Roland Garros et Raymond Saulnier n'aura pas de suite. Mais par contre, la collaboration entre Guynemer et l'ingénieur Louis Bechereau sera beaucoup plus fructueuse. Elle commence en avril 1916, lorsque Guynemer reçoit un SPAD 7 qui a été conçu par Louis Bechereau, qui a été un des premiers collaborateurs de Clément Ader et qui ensuite sera directeur du bureau d'études des avions de Père Dussin. Et donc lorsque Guynemer reçoit son SPAD 7, il est enthousiasmé par la maniabilité de l'appareil, par sa vitesse ascensionnelle, et donc il écrit à Louis Bechereau, et à partir donc d'avril 1916 commence une coopération fructueuse. Guynemer se rend aux ateliers à Colombes, aux ateliers SPAD à Colombes. Il y a une correspondance entre Bechereau et Guynemer et qui conduira à de nombreuses avancées techniques. On peut citer par exemple surcompression du moteur du SPAD 7 qui permettra de gagner quelques dizaines de chevaux. Et c'est Guynemer qui recevra le premier SPAD 7 avec un moteur Hispano-Suiza surcompressé, ce qui lui permettra de gagner quelques centaines de mètres d'altitude et donc d'obtenir un avantage tactique décisif sur ses ennemis, et puis d'obtenir 16 victoires aériennes grâce à son SPAD 7 au moteur Hispano-Suiza surcompressé. Alors cette collaboration avec, on pourrait citer encore bien d'autres exemples de ces collaborations entre pilotes et ingénieurs afin d'améliorer techniquement les appareils, elle va être institutionnalisée. Alors en France, elle est institutionnalisée d'une manière très peu informelle à travers le Tomato. Alors le Tomato, c'est un club que vous connaissez sans doute. C'est un club qui a été créé en 1916 par un ingénieur, et qui vise justement à réunir autour d'un repas le troisième vendredi de chaque mois à la fois des ingénieurs, des pilotes et des équipementiers. Et c'est aujourd'hui une structure qui existe, c'est très peu informel, et ça permet, si je peux dire, l'amélioration technique des matériels. Les Britanniques et les Américains, eux, donneront une forme beaucoup plus institutionnalisée à cette collaboration, puisque les Britanniques créent en 1916 l'Advisory Committee for Aeronautics, qui rend des rapports annuels sur la construction aéronautique et propose des solutions théoriques. Et puis ils seront copiés par les Américains en 1915, qui crée la NACA, c'est-à-dire le National Advisory Committee for Aeronautics. Même chose, qui est une commission qui rassemble des fonctionnaires, des ingénieurs civils et des militaires, et qui est chargée de donner des conseils sur l'orientation de la recherche aéronautique ou de proposer des solutions théoriques et scientifiques aux problèmes rencontrés en matière de construction aérienne, ça déborde le cadre militaire puisque ça traite également des questions aéronautiques civiles. Il y a donc, avec l'aviation, dès le début de l'aviation, avant la Première Guerre mondiale, et ça se renforce au cours de la Première Guerre mondiale, l'apparition d'une nouvelle figure qui est centrale dans l'art militaire, qui est la figure de l'ingénieur, et qui était beaucoup moins présente auparavant. Avec une guerre uniquement en deux dimensions. Et ces deux figures, elles se concurrencent. Et elles sont, par exemple, présentées par un livre qui est peu connu du colonel Lawrence, The Mint, qui a été publié en 1926. Qui est traduit en français sur le titre « La Matrice ». Vous savez que Lawrence, après avoir soulevé les tribus arabes en Arabie, s'est engagé comme simple aviateur dans la Royal Air Force en 1922, et donc en a tiré un livre, « La Matrice ». Alors « La Matrice », c'est décrit essentiellement le processus par lequel la Royal Air Force casse les individualités pour en faire des soldats. Donc c'est plus un livre sur ce broyage des individus au profit de l'institution militaire. Mais il y a aussi dans les derniers chapitres, il décrit l'arrivée au sein de cette nouvelle armée que constitue la Royal Air Force, cette nouvelle figure de l'ingénieur qui concurrence celle du soldat. Il écrit notamment donc à se disputer, donc il parle en tant que simple aviateur, donc c'est dit, le respect où il décrit cette concurrence entre le soldat pilote et puis cet ingénieur qui met au point des nouveaux avions et qui joue un rôle crucial dans la guerre aérienne. Après la Première Guerre mondiale, toutes les armées ont conscience du rôle de la technique et du rôle du facteur technique. Le rôle du facteur technique est, par exemple, très largement pris en compte par le général von Seck lorsque, au sein du petit état-major qu'il forme à partir de 1919, ils analysent les leçons du premier conflit mondial. Et c'est à cause de ce facteur, de cette importance du facteur technique, que von Seck milite pour une petite armée professionnelle qui est seule capable de s'adapter à ces nouveaux armements et de mener une guerre de manœuvre rapide. Conséquence de la prise en compte de ce facteur technique et la réforme essentielle de l'enseignement militaire qui est entreprise par von Seck dans les années 20 pour tenir compte de ce facteur technique, puisqu'il y avait eu un rapport qui avait été écrit par le colonel Kurt Thorbeck en 1920, intitulé « The Technical and Tactical Lessons of the World War », et dans lequel Thorbeck critiquait l'aversion des officiers du grand état-major allemand pour les questions techniques et matérielles. Et il avait qualifié le manque de familiarité des officiers vis-à-vis de ces questions techniques comme « the basic mistake of the war ». Et von Seck tire les conséquences de ce rapport et donc entame une réforme majeure de l'enseignement militaire pour introduire les questions techniques dans l'enseignement militaire allemand. Ça a eu bien sûr un effet positif, mais pas tant que ça, puisque en 1940, les grands chefs, par exemple, de la Luftwaffe sont encore, comme Kesselring, comme Göring, par exemple, sont encore des aviateurs de la Première Guerre mondiale, et on connaît tous la version de Göring pour les questions techniques. Il y a cette anecdote célèbre où, lorsque les ingénieurs lui proposent d'installer des radars dans le cockpit de ses avions, il répond que ses pilotes n'ont pas besoin de cinéma dans leurs avions. Mais ceux qui tirent sans doute le mieux les leçons des enseignements techniques de la Première Guerre mondiale, ce sont les Britanniques. Les Britanniques, en particulier, ce sont donc les pères de la recherche opérationnelle qui a débuté pendant la Première Guerre mondiale grâce à un mathématicien, un ingénieur, Frederick Lanchester, qui cherche à modéliser le combat aérien et à déterminer les chances de succès ou d'échec en fonction d'un certain nombre de facteurs techniques. Donc il définit un certain nombre d'équations différentielles qui doivent permettre de définir en fonction de facteurs techniques, essentiellement le nombre, le résultat des combats aériens. Et donc c'est dans un ouvrage qui s'appelle Aircraft in Warfare, The Dawn of the Fourth Arm en 1916. Et dans cet ouvrage, grâce à ces équations différentielles, il cherche à définir quels peuvent être le résultat des combats aériens. Et cet ouvrage ouvre véritablement le développement de la recherche opérationnelle qui est créé du fait des problématiques qui sont posées par la guerre aérienne, formellement à partir de 1937, grâce à un autre physicien britannique qui est Patrick Blackett, à qui la Royal Air Force demande en 1937 de réfléchir au problème qui est posé par le manque d'efficacité de la DCA. La DCA britannique face aux avions volant à basse altitude. Et donc Blackett, en fonction d'un certain nombre de critères, en fonction de l'efficacité propre du système, met à plat complètement le système de DCA britannique et propose un certain nombre de solutions qui sont ensuite évaluées opérationnellement et qui permettent d'accroître l'efficacité de la DCA britannique. Et cette méthodologie qui est formulée par Blackett dès la fin des années 1930 est appliquée encore pendant la guerre par les Britanniques à toutes sortes de problèmes. Blackett, après s'être penché sur les questions aériennes, se plongera en appliquant toujours les mathématiques et les statistiques à ces problèmes opérationnels. Et il s'attaquera à la protection des convois navals dans l'Atlantique pour essayer de déterminer quels sont les meilleurs équilibres et les meilleures formations opérationnelles pour protéger ces convois. Là, et donc, il fonde véritablement la recherche opérationnelle qui a pour but de prendre en compte toutes les variables du combat qui sont donc l'environnement naturel, les tactiques ennemies, les performances du matériel, les configurations des déploiements, le fonctionnement des unités militaires et même le comportement des individus. Et toutes ces variables sont prises en compte et théorisées sous la forme d'équations. L'homme qui, aux États-Unis, va appliquer cette recherche opérationnelle aux questions aériennes est le général Arnold, qui est chef d'état-major dès 1941 de l'armée, ce qui n'est encore non pas l'US Air Force, mais l'US Army Air Force. Et Arnold va jouer un rôle vital dans la prise en compte du facteur technique pour le développement, pour la guerre aérienne. Aux États-Unis, il y avait donc la NACA, qui avait été créée en 1915, mais qui, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, joue encore un rôle très effacé, essentiellement au profit de l'aviation civile. Et les avis qui sont rendus par la NACA et les pistes qui sont soulevées par les scientifiques de la NACA sont très, très éloignés des préoccupations de l'US Army Air Force. Et une des premières tâches de Arnold sera justement d'instaurer une coopération étroite entre les bureaux de la NACA et la division du matériel chargé de l'équipement de l'US Army Air Corps, et donc de poser des problèmes militaires, d'intéresser la NACA aux questions opérationnelles et militaires. L'histoire de l'introduction, par exemple, des réacteurs dans l'US Army Air Force montre que la NACA était très éloignée des questions opérationnelles. Arnold découvre que la propulsion à réaction, lorsqu'il se rend en voyage en Grande-Bretagne, et lorsque Portal, qui est l'Airchief Marshal Portal, qui est le chef d'état-major de la Royal Air Force, lui montre les travaux de Whittle. sur le moteur à réaction. Et donc, lorsque Arnold retourne aux États-Unis, il convoque George Javis, qui est directeur de la recherche aéronautique à la NACA, et lui demande pourquoi les États-Unis sont pas capables de fabriquer des avions qui volent à plus de 400 miles par heure. Et Javis lui répond que la technologie existe, mais que la NACA n'a pas lancé de programme de recherche et de développement parce que l'US Army Air Corps ne lui a pas demandé et que ce n'est pas à la NACA de définir les spécifications des avions. Et donc Arnold obtient de Portal qu'un réacteur soit donné aux Américains et lance à partir de 1941 des programmes de recherche sur les réacteurs et puis sur les avions à réaction. Arnold a aussi, outre le renforcement des liens entre la recherche civile et l'Army Air Force, Arnold a aussi un rôle dans l'introduction de la recherche opérationnelle au sein de l'US Army Air Force. En particulier, il prend modèle des Britanniques. Vous savez qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui ont joué un rôle majeur dans l'effort de guerre britannique. Il y a Lindemann, qui était le conseiller scientifique de Churchill et qui est l'homme qui va conseiller à Churchill les bombardements de zone pour l'offensive stratégique aérienne sur l'Allemagne. Vous avez un autre scientifique qui est cette fois un zoologiste, qui est Zuckerman, qui joue un rôle essentiel auprès de l'Air Chief Marshal Tedder, et en particulier c'est lui qui planifie cette opération de bombardement des installations ferroviaires qui vont permettre le succès d'Overlord en juin 1944. Et donc Arnold suggère à ses grands subordonnés, en particulier Hicker, le général Hicker qui commande la 8e Air Force, qui sont bombardiers stratégiques qui opèrent en Europe du Nord à partir de l'Angleterre, d'avoir des conseillers scientifiques pour en particulier estimer et étudier les contre-mesures qui sont prises par les Allemands qui mettent en danger les formations de bombardiers américains. Et il lui suggère de prendre à ses côtés des techniciens et des scientifiques qui auraient pour mission d'évaluer les informations reçues et de conseiller Hicker, le commandement, sur les actions à entreprendre. Donc il y a, sous l'impulsion des Britanniques, il y a ce développement de la recherche opérationnelle, donc chez les Anglais, mais également chez les Américains, avec ces deux aspects, tout à fait le renforcement des relations entre les scientifiques et les militaires, et puis la création de sections de recherche opérationnelle auprès des grands chefs militaires. Tout ne se passe non plus pas très bien. Il y a des exemples de mauvaises relations entre les scientifiques et les militaires. Un des exemples les plus célèbres est les relations exécrables qu'entretenait Arnold et le conseiller scientifique de Roosevelt, qui est Vannevar Bush. Il n'y avait aucune confiance entre Arnold et Bush, puisque Bush avait n'avait pas compris l'utilité du réacteur, et, ni compris l'utilité de la fusée d'assistance au décollage, qui est la fusée Jato. Mais par contre, Bush jouera un rôle essentiel dans le programme Manhattan. Et donc, pendant toute la guerre, il y aura une méfiance entre Bush et Arnold. Arnold voulant introduire des militaires le plus en amont possible dans la recherche fondamentale pour pouvoir orienter la recherche fondamentale en fonction des besoins opérationnels, tandis que Bush refuse aux militaires la possibilité d'orienter la recherche. Et pour lui, seuls les scientifiques sont capables de voir quelles sont les solutions techniques qui sont les plus prometteuses en manière opérationnelle. La recherche opérationnelle ne comporte pas seulement des scientifiques, des mathématiciens ou des physiciens ou des naturalistes comme Zuckerman. Elle utilise aussi des scientifiques ici des domaines des sciences humaines et sociales, principalement après la Deuxième Guerre mondiale. Ces spécialistes des sciences humaines et sociales sont recrutés dans le cadre de la formation de la RAND Corporation, du projet RAND qui démarre dès dès 1946, qui est le premier think tank américain et qui est créé par Douglas Aircraft Corporation et qui vise à réfléchir au développement de la guerre aérienne future. Et donc Douglas s'aperçoit qu'il lui faut, pas seulement pour réfléchir à cette guerre aérienne future, pas seulement des mathématiciens ou des physiciens, mais également des spécialistes des sciences humaines et sociales, des historiens, des politologues et des économistes. Et donc c'est à partir de 1947 que ces spécialistes retrouvent également des scientifiques des sciences dures pour former cette division qui donne naissance au premier think tank américain. Les problèmes spécifiques de la guerre aérienne ont donc donné naissance à la recherche opérationnelle qui ensuite a été étendue à d'autres armées. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une nouvelle importance qui est donnée aux questions techniques, encore dans le domaine de la guerre aérienne, qui menace, si je peux dire, la place de l'homme dans cette guerre industrielle, où on a bien souvent eu l'impression, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, que la victoire allait à la puissance qui alignait le plus d'hommes et les équipements les plus performants. Cette réduction de la place de l'homme dans la guerre, c'est un phénomène qui a été ancien, si on peut dire, qui a été identifié dès la Première Guerre mondiale. On peut citer, par exemple, Paul Valéry dans son discours. Je sais que vous avez des réticences lorsqu'on cite Paul Valéry. Mais, qui, lors de son discours de réception du maréchal Pétain à l'Académie, dit « Mais vous, monsieur, qui ne pouvez vous empêcher de considérer autre chose que ce désordre d'enseignement contradictoire que nous propose le passé, il vous apparaissait que dans la guerre, comme en toute chose, l'accroissement prodigieux de la puissance du matériel tend à réduire de plus en plus la part physique de l'action de l'homme. » Et donc, Valéry a distingué cette réduction de la présence humaine dans la guerre industrielle et moderne telle qu'elle s'est développée pendant la Première Guerre mondiale, mais elle est à relativiser. On peut citer par exemple le général von Seck qui justement récuse cette idée de supériorité du matériel sur l'homme, puisqu'il dit que le matériel a essentiellement a permis d'obtenir une supériorité sur la masse, mais qu'il n'a pas remplacé l'esprit humain qui seul est capable de gouverner les masses inertes. Mais il y a quand même, il faut bien le reconnaître, un changement de paradigme après la Deuxième Guerre mondiale avec l'apparition de systèmes automatisés grâce à l'ordinateur. Et c'est là encore la guerre aérienne qui joue un rôle essentiel dans l'introduction de ces systèmes automatisés. Et là, on a deux personnages qui jouent un rôle essentiel. Le premier, c'est John von Neumann, qui est physicien qui a joué un rôle, qui a mobilisé le premier ordinateur qui avait été construit aux États-Unis, l'ENIAC, pour Electronic Numerical Integrator, Analyzer and Computer, qu'il réquisitionne pour l'aider à résoudre des équations physiques liées au projet Manhattan. Et donc c'est le premier, si je peux dire, à utiliser un ordinateur pour dans des questions pour résoudre des questions militaires dans le cadre d'un système militaire. Et le deuxième homme qui joue un rôle essentiel, c'est Jay Forrester, qui est un peu plus jeune, qui est le premier à développer l'informatique dans le cadre de systèmes militaires, en développant en particulier le premier ordinateur digital aux États-Unis, le Whirlwind, qui est développé à partir de 1946 et pour lequel il entrevoit le rôle central qu'il pourra jouer dans les systèmes militaires futurs, puisqu'il écrit dès 1946 que cet ordinateur, ce premier ordinateur digital, doit permettre l'établissement d'un centre de coordination des informations relatives au combat. Et ce projet, mais ce projet nécessite, mobilise des ressources qui sont colossales. Il est d'abord financé par la marine. Et la marine coupe les financements en 1949 parce qu'elle ne voit pas très bien. Elle est critiquée par une mission d'inspection du DOD américain. Et donc elle coupe les crédits en 1949 parce qu'elle ne voit pas une utilité opérationnelle à cet ordinateur. Et cet ordinateur est récupéré par les aviateurs qui, à ce moment-là, commencent en 1949, juste après l'explosion de la première bombe A soviétique, commencent à réfléchir à l'établissement d'un système de défense aérienne intégré. Et à la suite des travaux de la commission Vallée en 1949, cet ordinateur digital, Whirlwind, est réquisitionné puisque Vallée estime que seul un ordinateur digital est capable de résoudre et de prendre en compte les milliers d'informations qui vont résulter de l'identification de centaines de pistes d'avions par des centaines de radars répartis sur tout le territoire américain et d'attribuer aux pistes qui ont été désignées comme hostiles un intercepteur. Et seul un ordinateur digital, dès 1949, la commission Vallée et dès la commission Charles, notre commission, établit les principes qui vont conduire à l'établissement du premier système de défense aérienne intégré, qui est le système SAGE, dont les premiers segments rentrent en service en 1958 et qui sera définitivement opérationnel en 1961. Et qui est développé à partir d'ordinateurs IBM, et donc qui permet d'attribuer un intercepteur en fonction d'un certain nombre de paramètres techniques, en fonction d'un certain nombre d'équations différentielles qui sont résolues par ces ordinateurs, d'attribuer un intercepteur à chaque piste d'avion qui a été identifiée comme hostile. Et ce système SAGE, donc, qui commence à rentrer en service à la fin des années 1950, est le premier des systèmes automatisés. Et ensuite, beaucoup d'autres systèmes automatisés, dédiés aussi à d'autres aspects de la guerre aérienne, vont apparaître. Ce sont ce qu'on appelle les systèmes Big L. Il y en a beaucoup, il y en a une dizaine. On peut citer le 465L pour le Strategic Automated Command and Control System, qui est le système qui est mis en place pour le SAC, le Strategic Air Command, qui met en service les bombardiers stratégiques américains. Et ce SAC, ce 465L qui est défini à la fin des années 1960, comporte 1 million de lignes dans son programme et qui est donc 4 fois plus long que le programme SAGE. Et c'est ce programme, ce Strategic Automated Command and Control System, qui sera étendu au lendemain de la crise de Cuba et qui deviendra le Worldwide Military Command and Control System, c'est-à-dire un système informatique et dont les capteurs s'étendent à la surface du globe terrestre. Et c'est ce système-là qui sera utilisé par Johnson lors de la guerre du Vietnam pour non pas contrôler en temps réel, mais commander l'offensive aérienne sur le nord Vietnam à partir de 1964 et l'opération Rolling Thunder. Il y a donc la guerre aérienne. La guerre aérienne a donc joué un rôle essentiel, un rôle majeur dans un processus de technologisation de la guerre. C'est un néologisme, je pense. Et
Technicisation.
Ce poids de la technique dans la guerre aérienne a conduit parfois à négliger l'importance des facteurs culturels ou des concepts dans la construction sociale de la technique de la guerre aérienne. Et le Britannique, par exemple, David Mac-Isaac, a écrit que la théorie militaire et la théorie aérienne avaient eu une influence limitée dans un domaine où l'effet de la technique était le plus important. C'est donc dans la guerre aérienne que s'est cristallisé cet aspect technique qui est sans doute une des caractéristiques les plus importantes de l'art occidental de la guerre. Mais cette technicisation touche également toutes les autres armées, et c'est sans doute une caractéristique plus large, comme on a pu le voir avec les exposés ce matin, de cet art occidental de la guerre. On peut citer par exemple les soviétiques qui voyaient dans les armées de l'OTAN des petites forces bien équipées qui menaient une guerre essentiellement technique et dans laquelle les hommes étaient asservis à leur système d'armes. En 1954, par exemple, le colonel Sokolov a reproché ainsi aux puissances impérialistes d'avoir une approche technique, voire techniciste de la guerre. Et aujourd'hui, on a un discours qui devient très anti-techniciste, voire qui est misonéiste par certains aspects, lorsque sont évoqués par exemple l'avion Rafale ou les drones. Et alors que ces machines volantes et les systèmes qui permettent de les faire voler ou qui permettent de les commander ou de les contrôler sont avant tout des constructions sociales des aviateurs. Et comme dans les machines à vapeur du 19e siècle, il y a de l'humain dans ces machines. Et on trouve, certes, cet humain s'est beaucoup matérialisé, mais on trouve là-dedans des bribes de culture humaine.
Merci pour ce magnifique exposé, parfaitement limpide, me semble-t-il, et puis pour votre position humaniste, enfin, je dirais même presque culturaliste. Ça pose plein de problèmes tout à fait passionnants. Alors, je vais être très généreux, le temps a tourné, malgré tout, j'accorde une question. Alors, qui veut poser la question ? Qui ou bien réfutera entièrement la position de M. Despinois, ou bien le poussera jusqu'au bout de son raisonnement.
Tout le monde a faim. Tout le monde a faim.
Pour le plaisir de la discussion, je vais me risquer, mais dans la continuité de ce que vous avez dit, et aussi de des propos tenus antérieurement ce matin. Un des problèmes des concepteurs de systèmes et des organisateurs de méthodes, un des problèmes, c'est l'arrogance. Et évidemment, quand on fait des propositions nouvelles, quand on se dirige vers des sentiers non battus, il faut avoir une bonne confiance en soi pour s'aventurer dans ces directions. Et une conviction très forte de la valeur de ses opinions et de ses points de vue. Et très souvent, ça conduit à une forme d'arrogance qui, après ça, se retourne en boomerang contre l'auteur et la collectivité qui l'a promue. Je pense que les aviateurs, dans une certaine mesure, n'ont pas échappé à ce reproche. Les positions de Douai, de Mitchell, les erreurs récurrentes de Göring, mais aussi de Lyndon Johnson, de Ehud Olmert, font qu'elles ont généré un grand scepticisme dans le cadre des rivalités interarmes qui inévitablement se développent. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue et comment vous envisageriez d'atténuer, de réduire, d'édulcorer ces réactions épidermiques qui, par ailleurs, sont parfois extrêmement néfastes?
Bonne question.
Alors, je ne sais pas si l'arrogance est une des caractéristiques du caractère des aviateurs ou... je ne sais pas. Johnson n'était pas aviateur, Olmert n'était pas aviateur, Olmert n'avait même pas fait son service militaire, je crois. Alors, je pense que ça tient... au fait que à une croyance un peu trop importante dans ce que peut apporter la technique, mais Et c'est vrai que les aviateurs ont parfois cru que, dans la lignée des doués, dans ce que Couteau Bégari a appelé les propagandistes de l'ère intégrale, que les aviateurs pouvaient, grâce uniquement à l'emploi de leurs armes, obtenir la victoire. Alors c'est vrai de Douai, c'est vrai encore pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quelqu'un comme le général Spatz, qui commande toute l'aviation stratégique américaine en Grande-Bretagne à partir de janvier 1944, dit à propos du débarquement, laissons-les se planter et courir à la catastrophe, ensuite on leur montrera comment on gagne une guerre grâce à l'emploi de l'aviation. C'est vrai qu'il y a cette foi en la technique, que les aviateurs ont cette foi en la technique, mais qui n'est pas, si je puis dire, une caractéristique. C'est une caractéristique qui peut être partagée par d'autres catégories de la société. Johnson, c'est plus compliqué quand même, le Vietnam, l'emploi de l'aviation lors de l'opération Rolling Thunder, c'est quand même très très compliqué. Les aviateurs ne sont pas libres, et c'est une des critiques principales qui a été faite après l'échec de Rolling Thunder. Les aviateurs ne sont pas libres d'employer la puissance aérienne, et ils sont étroitement contrôlés, et il n'y a pas de micro-management, parce qu'au fur et à mesure que s'avance la campagne Rolling Thunder, il y a des centaines de cibles qui sont bombardées autour des programmes Rolling Thunder 36, 37, 38. Mais il y a quand même un encadrement étroit de cet emploi de la puissance aérienne qui, selon les aviateurs, a conduit à l'échec. Je pense qu'il faut quand même élargir un petit peu le cadre. Et Olmert au Liban en 2006... ce qui a échoué, c'est pas tellement la campagne aérienne, c'est l'emploi des forces terrestres, si je puis me permettre, mon général, parce que les forces aériennes ont atteint leurs objectifs, ont détruit un certain nombre de dépôts de roquettes. Ce qui a pas fonctionné, c'est l'offensive terrestre qui s'est enrayée face à ce qu'on a appelé une techno-guérilla du Hezbollah, qui était très organisée, alors que les Israéliens avaient perdu sans doute un petit peu de leur savoir-faire dans des opérations de maintien de l'ordre, et Goya aurait pu en parler très bien, et avait sans doute oublié qu'on emploie les chars avec de l'infanterie dans ce genre de combat plutôt que des chars seuls, et donc qu'on subit des pertes importantes. Donc ce qui compte, je pense, c'est il y a un certain nombre de facteurs dans l'emploi de l'arme aérienne, et ce qui plaît aux politiques, et c'est sans doute pour ça qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs et d'échecs, c'est que l'arme aérienne, c'est une arme qui est facile à employer. C'est Elliot Cohen, qui est un des auteurs du rapport sur l'emploi de la puissance aérienne pendant la Première Guerre mondiale, qui dit que employer l'arme aérienne, c'est un peu comme un flirt, c'est-à-dire qu'on en obtient tous les avantages sans avoir l'engagement, c'est-à-dire sans savoir le coût économique et sans avoir les pertes possibles liées à l'engagement des forces de surface.